Chapitre 32. Chelsea, 1990. Sally quitta la maison quelques jours plus tard. Birdie s'installa dans la chambre de David, mais Justin décida de rester. Il garda la chambre qu'il avait partagée avec elle jusqu'alors. Ni moi ni Finn ne fûmes punis pour l'incident avec le LSD, mais il était évident que, pour lui, perdre sa mère était le pire des châtiments que son père aurait pu lui infliger. Il se sentait responsable de la situation et s'en voulait terriblement. Il était également très en colère contre Birdie, qu'il méprisait totalement et nommait désormais « ça ». Il détestait tout autant son père. Et malheureusement, il m'en voulait aussi, sans formuler son ressentiment. C'est moi qui lui avais tendu le poignard avec lequel il avait éventré, sans s'en rendre compte, le mariage de ses parents. Si je ne lui avais pas dit ce que j'avais vu, rien de tout cela ne se serait produit. Pas d'excursion en ville, pas d'acide, pas de terribles révélations concernant l'embrasseur de truie. Le lien que nous avions tissé sur le toit ce jour-là ne s'effilocha pas petit à petit, non. Il se calcina brutalement dans un nuage de fumée toxique. Je crois que j'avais mérité ce qui m'arrivait. Quand je repense à mes intentions, au moment où je lui avais avoué ce dont j'avais été témoin, à ma volonté de le scandaliser, de l'impressionner, à mon absence totale d'empathie, de compassion à l'égard de ce qu'il pouvait éprouver, oui, je me sens quelque peu responsable. Mais j'ai payé le prix fort pour mes actes, c'est indéniable, puisqu'en détruisant à mon insu le mariage de ses parents, j'avais déclenché l'effondrement de toute ma vie. Quelque temps après le départ de Sally, j'eus une grande discussion avec Justin. Il était assis à la table de la terrasse et faisait du tri dans des tas d'herbes et de fleurs. Le fait qu'il reste vivre sous le même toit que son ancienne compagne, alors même qu'elle l'avait trompé, me semblait profondément triste, mais également subversif. Il continuait sa vie comme avant, cultivant son jardin, transformant les plantes qui y poussaient en poudre qu'il transvasait dans de petits sachets en toile ou dans des flacons en verre auxquels il collait ses étiquettes « L'apothicaire de Chelsea ». Il portait toujours les mêmes vêtements et continuait à se déplacer très lentement. Il ne présentait aucun signe de chagrin d'amour, ni d'autre type de tourment. Il me parut intéressant, à moi qui souffrais tant de la fin de ma relation avec Finn, de comprendre ce qu'il se passait dans sa tête. Depuis le départ de Sally et l'accouplement de Birdie et de David, et puisque mes parents devenaient chaque jour un peu plus les ombres d'eux-mêmes, Justin me semblait l'une des personnes les plus normales de notre maison. Je m'assis en face de lui, et il me lança un sourire.
« Bonjour, mon grand. Comment ça va ?
Tout va bien ? Très... »
J'avais répondu sans réfléchir, car en réalité, ça n'allait pas fort du tout.
« Tout est un peu bizarre en ce moment, non ?
C'est le moins qu'on puisse dire, » renchérit-il en observant ma réaction.
Un silence s'installa. Il recommença à séparer les bourgeons des tiges et à les poser sur un plateau.
« Pourquoi est-ce que tu vis encore ici, alors que Birdie et toi ?»«
C'est une bonne question, » m'interrompit-il sans me regarder et en poursuivant son activité.
« Je crois que, même si nous ne sommes plus en couple, elle fait encore partie de moi. Tu vois, l'amour, ce n'est pas que le sexe, et il ne disparaît pas forcément à la fin d'une relation. Ce n'est pas automatique. »
Je répondis d'un hochement de tête. En ce qui me concernait, c'était absolument vrai. Bien qu'il fût fort probable que je ne tiendrais plus jamais la main de Finn, ni même que j'aurais de conversation avec lui, mes sentiments ne s'atténuaient pas.
« Tu penses que vous allez vous remettre ensemble ?»«
Peut-être, » soupira-t-il.
« Ou peut-être pas.
Tu aimes bien David ?»«
Ah, David !»
Son langage corporel changea aussitôt. Il redressa les épaules et entrelaça ses doigts.
« Les avis sont partagés, » finit-il par dire. « Pour certaines choses, je le trouve extraordinaire, mais parfois il me fait peur.
« Oui, moi aussi !» abondai-je en parlant fort avec enthousiasme.
« Moi aussi, il me fait peur. »«
Et pourquoi ça ?»«
Je trouve qu'il est... »
commençai-je en cherchant le bon mot.
« Il est sinistre. »
Justin rit doucement.
« Oui, c'est tout à fait ça. Tiens, » reprit-il en me tendant un rouleau de ficelle et une poignée de petites fleurs jaunes qui ressemblaient à des pâquerettes. « Fais deux petits bouquets et attache-les ensemble. »«
C'est quoi ?
des calendules. C'est excellent pour apaiser les affections cutanées.
Et ça, qu'est-ce que c'est ?
Demandai-je en désignant de minuscules bourgeons jaunes.
De la camomille, pour faire des tisanes. Sens ça.
Quel parfum !
J'acquiesçai, et je fis un premier nœud autour de quelques tiges de calendule.
C'est bien comme ça ?
Parfait.
Alors il paraît que vous vous êtes offert un petit trip avec Fine la semaine dernière.
Je rougis immédiatement.
Incroyable. Moi j'avais 17 ans la première fois que j'ai pris de la drogue. Et toi tu as quoi ? 12 ans ?
13 ans,
répondis-je fermement.
J'ai 13 ans.
Si jeune.
Oh,
chapeau. J'avais du mal à comprendre son enthousiasme. Je savais pertinemment que j'avais fait quelque chose de mal, mais je lui souris quand même.
« Tu sais, »
murmura-t-il en se penchant vers moi,
« je peux faire pousser ce que je veux ici en théorie.
Tu me suis ?»
Je secouai la tête en signe de dénégation.
« Je fais pousser des plantes thérapeutiques, mais je peux faire pousser autre chose, ce que toi tu veux ?»
J'acquiesçai lentement, l'air grave.
« Comme du poison, tu veux dire ?»
Il éclata de rire.
« Par exemple ?» « De bons poisons ou des mauvais ?»
confirma-t-il en se tapotant le nez. À ce moment-là, la porte du jardin s'ouvrit. Nous nous retournâmes pour voir qui venait. C'était Birdie et David. Ils se tenaient par la taille. Ils nous lancèrent un regard et poursuivirent leur chemin jusqu'à l'autre bout du jardin. L'atmosphère changea radicalement, comme si un nuage venait d'éclipser le soleil.
« Ça va ?»
chuchotai-je à Justin.
« T'inquiète. »
Nous restâmes assis sur la terrasse, déroutés par leur présence étouffante, à discuter des propriétés des plantes que Justin cultivait. Il me parla de la ciguë et de la belladone, la cerise du diable, qui aurait été utilisée par les soldats de Macbeth pour empoisonner l'armée danoise. Il me parla aussi d'herbes magiques que l'on pouvait utiliser pour jeter des sorts, et des plantes aphrodisiaques comme le ginkgo biloba.
« Comment est-ce que tu as appris tout ça ?»
Il haussa les épaules.
« Surtout dans des livres. Et ma mère jardinait beaucoup aussi, donc j'ai été élevé à l'extérieur au milieu des plantes. Ça s'est fait progressivement. »
Depuis le départ de Sally, nous n'avions plus cours. Nous étions livrés à nous-mêmes toute la journée sans savoir que faire.
« Lis un livre !»
nous ordonnait-on dès qu'on se plaignait de s'ennuyer.
« Fais des calculs !»
J'étais donc prêt à apprendre quoi que ce soit de nouveau, et l'offre se limitait aux étranges exercices de David et aux cours de violon de Birdie.
« Est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent faire faire aux gens des choses contre leur volonté ?»«
Il y a les plantes hallucinogènes, bien sûr, comme les champignons.
Et tu pourrais en faire pousser ici, dans ce jardin ?»«
Je peux faire pousser ce que je veux, où je veux, mon cher. »«
Je peux t'aider ? Je peux cultiver les plantes avec toi ?»«
Bien sûr, tu peux être mon apprenti.
Ce sera cool. »
Je ne sais pas ce qui advenait dans la chambre de Birdie et David une fois la porte fermée. Je n'aimais pas penser trop longtemps à ce qu'il se passait dans cette pièce, mais j'entendais des bruits qui, même maintenant, presque 30 ans plus tard, me font encore frissonner. Je dormais la tête sous l'oreiller toutes les nuits. Le matin, ils émergeaient toujours en même temps, l'air satisfait et supérieur. David était obsédé par les cheveux de Birdie qui cascadaient jusqu'à sa taille. Il les touchait en permanence. Il les enroulait autour de ses mains, en attrapait des poignets, y plongeait les doigts, lui faisait des tresses tout en lui parlant. Un jour, je le vis même détacher une mèche et la porter à son nez avant d'inspirer profondément.
« Les filles, vous ne trouvez pas que les cheveux de Birdie sont incroyables ?»
demanda-t-il un jour à ma sœur et Clemency, qui avaient toutes les deux les cheveux au niveau des épaules.
« Vous rêvez d'en avoir des comme ça, je parie. »
« Vous savez, dans beaucoup de religions, c'est très important pour les femmes de les porter longs. C'est une marque de piété, » nous informa Birdie.
Il n'était pas religieux, mais Birdie et David parlaient beaucoup de spiritualité dans les premiers temps de leur relation. Ils débattaient du sens de la vie et du caractère éphémère de toute chose. Ils discutaient de minimalisme et de feng shui. Ils demandèrent à ma mère s'ils pouvaient peindre leur chambre en blanc et mettre le sommier en métal dans une autre pièce, afin de dormir directement sur le sol. Ils détestaient les aérosols, les fast-foods, les entreprises pharmaceutiques, les fibres synthétiques, les sacs en plastique, les voitures, les avions. Ils nous informaient sur la menace que constituait le réchauffement climatique et s'inquiétaient de leur empreinte carbone. Aujourd'hui, avec les scénarios catastrophes que l'on se joue à chaque canicule, avec nos océans où flottent les cadavres des animaux marins décimés par les déchets, avec les ours polaires perdus sur des morceaux de banquise à la dérive, nous sommes habitués à ce type de discours. Mais, quand j'y repense, ils étaient en avance sur leur temps. Au début des années 1990, alors que le monde découvrait à peine les nouvelles technologies et les possibilités qu'offrait la culture du tout jetable, ils paraissaient ridicules. Et j'aurais pu respecter les convictions écologistes de David et Birdie s'ils ne nous obligeaient pas tous à vivre selon leurs préceptes. Malheureusement, le fait que deux dorment sur un matelas posé par terre ne suffisait pas. Il fallait qu'on dorme tous à même le sol. Il ne suffisait pas qu'ils proscrivent les voitures, l'aspirine et le poisson pané. Il fallait qu'on en fasse autant. La prémonition que j'avais eue en les voyant s'embrasser se réalisait. Birdie avait réveillé en David un penchant maléfique et elle ferait tout pour qu'il nous contrôle entièrement. De toute évidence, nous n'étions plus libres.